Chapitre 15. Comment le roi de Navarre se comporta la première fois qu'il vit le feu. La première armée s'avança jusqu'à deux portées de canon de la ville. Là, on déjeuna. Le repas pris, il fut accordé 2 heures aux officiers et aux soldats pour se reposer. Il était 3 heures de l'après-midi, c'est-à-dire qu'il restait 2 heures de jour à peine lorsque le roi fit appeler les officiers sous sa tente. Henri était fort pâle, et tandis qu'il gesticulait, ses mains tremblaient si visiblement qu'elles laissaient aller leurs doigts comme des gants pendus pour sécher. « Messieurs, dit-il, nous sommes venus pour prendre Cahors. Il faut donc prendre Cahors, puisque nous sommes venus pour cela. Mais il faut prendre Cahors par force, entendez-vous, c'est-à-dire en enfonçant du fer et du bois avec de la chair. » Pas mal, fit Chicot, qui écoutait en épilogueur, et si le geste ne démentait pas la parole, on ne pourrait guère demander autre chose, même à monsieur Crillon. « Monsieur le maréchal de Biron, continua Henri, monsieur le maréchal de Biron, qui a juré de faire pendre jusqu'au dernier huguenot, tient la campagne à 45 lieues d'ici. Un messager, selon toute probabilité, lui est déjà, à l'heure qu'il est, expédié par monsieur de Vezin. Dans 4 ou 5 jours, il sera sur notre dos. Il a 10 000 hommes avec lui. Nous serons pris entre la ville et lui. » Ayons donc pris Cahors avant qu'il n'arrive, et nous le recevrons comme monsieur de Vezin s'apprête à nous recevoir, mais avec une meilleure fortune, je l'espère. Dans le cas contraire, au moins, il aura de bonnes poutres catholiques pour pendre les huguenots, et nous lui devons bien cette satisfaction. Allons, sus, sus, messieurs. Je vais me mettre à votre tête, et des coups, ventre Saint-Gris, des coups, comme s'il en grêlait. Ce fut là toute l'allocution royale, mais elle était suffisante à ce qu'il paraît, car les soldats y répondirent par des murmures enthousiastes et les officiers par des bravos frénétiques. Beau phraseur, toujours gascon, dit Chicot à part lui, comme il est heureux qu'on ne parle pas avec les mains, ventre de biche, le Béarnais aurait rudement bégayé. D'ailleurs, nous le verrons à l'œuvre. La petite armée partit sous le commandement de Mornay pour prendre ses positions. Au moment où elle s'ébranla pour se mettre en marche, le roi vint à Chicot. « Pardonne-moi, ami Chicot, lui dit-il, je t'ai trompé en te parlant de chasse, loup et autres balivernes, mais je le devais décidément, et c'est ton avis à toi-même, puisque tu me l'as dit en toutes lettres. Décidément, le roi Henri ne veut pas me payer la dot de sa sœur Margot, et Margot crie, Margot pleure pour avoir son cher Cahors. Il faut donc faire ce que femme veut pour avoir la paix dans son ménage. Je vais donc essayer de prendre Cahors, mon cher Chicot. Que ne vous a-t-elle demandé la lune, sire, puisque vous êtes si complaisant mari ? Répliqua Chicot, piqué des plaisanteries royales. « Ah, j'eusse essayé, Chicot, dit le Béarnais, je l'aime tant, cette chère Margot. Oh, vous avez bien assez de Cahors, et nous allons voir comment vous allez vous en tirer. Ah, voilà justement où je voulais en venir, Chicot. Écoute, mon ami, le moment est suprême et surtout désagréable. Ah, je ne fais pas blanc de mon épée, moi, je ne suis pas brave, et la nature se révolte en moi à chaque arquebusade. Chicot, mon ami, je ne te moque pas trop du pauvre Béarnais, ton compatriote et ton ami. Si j'ai peur et que tu t'en aperçoives, ne le dis pas. Si vous avez peur, dites-vous. Oui. Vous avez donc peur d'avoir peur, sans doute. Mais alors, ventre de biche, si c'est là votre naturel, pourquoi diable vous fourrez-vous dans toutes ces affaires-là ? Dame, quand il le faut, monsieur de Vezin est un terrible homme, je le sais cordieux bien, qui ne fera quartier à personne. Tu crois, Chicot ? Oh, j'en suis sûr quant à cela. Plume rouge ou plume blanche, peu lui importe, il criera au canon « feu ». Tu dis cela pour mon panache blanc, Chicot ? Oui, sire, et comme vous êtes le seul qui en avait un de cette couleur, après, je vous donnerai le conseil de l'ôter, sire. Hé, mon ami, puisque je l'ai mis pour qu'on me reconnaisse, si je l'ôte, eh bien, mon but sera manqué, Chicot. Vous le garderez donc, sire, malgré mon avis?
Oui, décidément, je le garde.
Et en prononçant ces paroles qui indiquaient une résolution bien arrêtée, Henri tremblait plus visiblement encore qu'en haranguant ses officiers. Voyons, dit Chicot, qui ne comprenait rien à cette double manifestation si différente de la parole et du geste. Voyons, il est temps encore, sire. Ne faites pas de folie. Vous ne pouvez pas monter à cheval dans cet état.
Je suis donc bien pâle, Chicot?
Demanda Henri. Pâle comme un mort, sire.
Bon, fit le roi.
Comment bon?
Oui, je m'entends.
En ce moment, le bruit du canon de la place, accompagné d'une mousquetade furieuse, se fit entendre. C'était monsieur de Vezin qui répondait à la sommation de se rendre que lui adressait Duplessis Mornay.
Hein, dit Chicot, que pensez-vous de cette musique?
Je pense qu'elle me fait un froid de diable dans la moelle des os, répliqua Henri. Allons, mon cheval, s'écria-t-il d'une voix saccadée et cassante comme le ressort d'une horloge. Chicot le regardait et l'écoutait sans rien comprendre à l'étrange phénomène qui se développait sous ses yeux. Henri se mit en selle, mais s'y reprit à deux fois.
« Allons, Chicot, dit-il, à cheval aussi, toi, tu n'es pas homme de guerre non plus, hein ?»«
Non, sire. »«
Eh bien, viens, Chicot, nous allons avoir peur ensemble. Viens voir le feu, mon ami, viens. Un bon cheval à monsieur Chicot. »
Chicot haussa les épaules et monta sans sourciller un beau cheval d'Espagne qu'on lui amena d'après l'ordre que le roi venait de donner. Henri mit sa monture au galop, Chicot le suivit. En arrivant sur le front de sa petite armée, Henri leva la visière de son casque.
« Hors le drapeau neuf dehors » cria-t-il d'une voix chevrotante.
On tira le fourreau et le drapeau neuf, au double écusson de Navarre et de Bourbon, se déploya majestueusement dans les airs. Il était blanc et portait sur azur d'un côté les chaînes d'or, de l'autre côté les fleurs de lys d'or avec le lambel posé en cœur.
Hein, « voilà, dit Chicot, à part lui, un drapeau qui sera bien mal étrenné, j'en ai peur. »
En ce moment, et comme pour répondre à la pensée de Chicot, le canon de la place tonna, et ouvrit une file tout entière d'infanterie à 10 pas du roi.
« Ventre cingré, dit-il, as-tu vu, Chicot? C'est pour tout de bon, il me semble. »
Et ses dents claquaient. « Il va se trouver mal, dit Chicot. »
« Ah, murmura Henri, tu as peur, carcasse maudite, tu grelottes, tu trembles, attends, attends, je vais te faire trembler pour quelque chose. »
Et, enfonçant ses deux éperons dans le ventre du cheval blanc qui le portait, il devança cavalerie, infanterie et artillerie, et arriva à 100 pas de la place, rouge du feu des batteries qui tonnait du haut du rempart, pareil à un fracas de tempête, et qui se reflétait sur son armure comme les rayons d'un soleil couchant. Là, il tint son cheval immobile pendant 10 minutes, la face tournée vers la ville, en criant « Les fascines, ventre cingré, les fascines !»
Mornay l'avait suivi, visière levée, épée au poing. Chicot fit comme Mornay, il s'était laissé cuirasser, mais il ne tira point l'épée.
Derrière ces trois hommes bondirent, exaltés par l'exemple, les jeunes gentilshommes huguenots, criant en hurlant « Vive Navarre !» Le vicomte de Turenne marchait à leur tête, une fascine sur le cou de son cheval. Chacun vint et jeta sa fascine. En un instant, le fossé creusé sous le pont-levis fut comblé. Les artilleurs s'élancèrent. En perdant 30 hommes sur 40, ils réussirent à placer leurs pétards sous la porte. La mitraille et la mousqueterie sifflaient comme un ouragan de feu autour de Henri. 20 hommes tombèrent en un instant à ses yeux.
« en avant, dit-il, et il poussa son cheval au milieu des artilleurs.
Et il arriva au bord du fossé au moment où le premier pétard venait de jouer. La porte s'était fendue en 2 endroits. Les artilleurs allumèrent le second pétard. Il se fit une nouvelle gerçure dans le bois, mais aussitôt, par la triple ouverture, 20 arquebuses passèrent qui vomirent des balles sur les soldats et les officiers. Les hommes tombaient autour du roi comme des épis fauchés.
« Sire, disait Henri, sans songer à lui, au nom du ciel, retirez-vous »
Mornay ne disait rien, mais il était fier de son élève, et de temps en temps, il essayait de se mettre devant lui, mais Henri l'écartait de la main par une secousse nerveuse. Tout à coup, Henri sentit que la sueur perlait à son front et qu'un brouillard passait sur ses yeux.
« Ah, nature maudite, s'écria-t-il, il ne sera pas dit que tu m'auras vaincu !»
Puis, sautant à bas de son cheval, « Une hache » cria-t-il, « une hache !»
et d'un bras vigoureux, il abattit canon d'arquebuse, lambeaux de chêne et clous de bronze. Enfin, une poutre tomba, un pan de porte, un pan de mur, et 100 hommes se précipitèrent par la brèche en criant « Navarre, Navarre, Cahors est à nous, vive Navarre !» Chicot n'avait pas quitté le roi, il était avec lui sous la voûte de la porte où Henri était entré, un des premiers. Mais à chaque arquebusade, il le voyait frissonner et baisser la tête. « Ventre Saint-Gris !» disait Henri furieux. « As-tu déjà vu pareille poltronnerie, Chicot ?»« Non, si, » répliqua celui-ci, « je n'ai jamais vu de poltron pareil à vous, c'est effrayant !» En ce moment, les soldats de Monsieur de Vezin tentèrent de déloger Henri et son avant-garde, établie sous la porte et dans les maisons environnantes. Henri les reçut, l'épée à la main. Mais les assiégés furent les plus forts. Ils réussirent à repousser Henri et les siens au-delà du fossé. « Ventre Saint-Gris !» s'écria le roi. « Je crois que mon drapeau recule. En ce cas-là, je le porterai moi-même. » Et d'un effort sublime, arrachant son étendard des mains de celui qui le portait, il le leva en l'air et le premier rentra dans la place, à moitié enveloppé dans ses plis flottants. « Aie donc peur, disait-il, tremble donc maintenant, poltron !» Les balles sifflaient et s'aplatissaient sur ses armes avec un bruit strident et trouaient le drapeau avec un bruit mat et sourd. Messieurs de Turenne, Mornay et 1000 autres s'engouffrèrent dans cette porte ouverte, s'élançant à la suite du roi. Le canon dut se taire à l'extérieur. C'était face à face, c'était corps à corps qu'il fallait désormais lutter. On entendit, au-dessus du bruit des armes, du fracas des mousquetades, des froissements du fer, Monsieur de Vezin qui criait « Barricadez les rues, faites des fossés, crénelez les maisons !» « Oh !» dit Monsieur de Turenne, qui était assez proche pour l'entendre, « le siège de la ville est fait, mon pauvre Vezin !» Et, en manière d'accompagnement à ses paroles, il lui tira un coup de pistolet qui lui blessa le bras. « Tu te trompes, Turenne, tu te trompes !» répondit Monsieur de Vezin. « Il y a 20 sièges dans Cahors, donc s'il y en a un de fait, il en reste 19 à faire !» Monsieur de Vezin se défendit 5 jours et 5 nuits, de rue en rue, de maison en maison. Par bonheur pour la fortune naissante de Henri de Navarre, il avait trop compté sur les murailles et la garnison de Cahors, de sorte qu'il avait négligé de prévenir Monsieur de Biron. Pendant 5 jours et 5 nuits, Henri commanda comme un capitaine et combattit comme un soldat. Pendant 5 jours et 5 nuits, il dormit la tête sur une pierre et s'éveilla, la hache au poing. Chaque jour, on conquérait une rue, une place, un carrefour. Chaque nuit, la garnison essayait de reprendre la conquête du jour. Enfin, dans la nuit du 4e au 5e jour, l'ennemi, harassé, parut devoir donner quelque repos à l'armée protestante. Ce fut Henri qui l'attaqua à son tour. On força un poste retranché qui coûta 700 hommes. Presque tous les bons officiers y furent blessés. Monsieur de Turenne fut atteint d'une arquebusade à l'épaule. Mornay reçut un grès sur la tête et faillit être assommé. Le roi seul ne fut point atteint. À la peur qu'il avait éprouvée d'abord et qu'il avait si héroïquement vaincue, avait succédé une agitation fébrile, une audace presque insensée. Toutes les attaches de son armure étaient brisées, autant par ses propres efforts que par les coups des ennemis. Il frappait si rudement que jamais un coup de lui ne blessait son homme. Il le tuait. Quand ce dernier poste fut forcé, le roi entra dans l'enceinte, suivi de l'éternel Chicot, qui, silencieux et sombre, voyait depuis 5 jours et avec désespoir grandir à ses côtés le fantôme effrayant d'une monarchie destinée à étouffer la monarchie des Valois. « Eh bien, qu'en penses-tu, Chicot ?» dit le roi, en haussant la visière de son casque, et comme s'il eût pu lire dans l'âme du pauvre ambassadeur. « Sire, murmura Chicot avec tristesse, sire, je pense que vous êtes un véritable roi. »« Moi, sire, s'écria Mornay, je dis que vous êtes un imprudent. Comment, gantelet à bas et visière haute, quand on tire sur vous de tous côtés, et tenez encore une balle ?» En effet, en ce moment, une balle coupait en sifflant une des plumes du cimier de Henri. Au même instant, et comme pour donner pleine raison à Mornay, le roi fut enveloppé par 10 d'arquebusiers de la troupe particulière du gouverneur. Ils avaient été embusqués là par Monsieur de Vezin et tirés bas et juste. Le cheval du roi fut tué, celui de Mornay eut la jambe cassée. Le roi tomba, 10 épées se levèrent sur lui. Chico seul était resté debout. Il sauta à bas de son cheval, se jeta en avant du roi et fit avec sa rapière un moulinet si rapide qu'il écarta les plus avancés. Puis, relevant Henri, embarrassé dans les harnais de sa monture, il lui amena son propre cheval et lui dit « Ainsi, vous témoignerez au roi de France que si j'ai tiré l'épée contre lui, je n'ai du moins touché personne. » Henri attira Chico à lui et, les larmes aux yeux, l'embrassa. « Ventre Saint-Gris, dit-il, tu seras à moi, Chico, tu vivras, tu mourras avec moi, mon enfant. Va, mon service est bon comme mon cœur. » « Sire, répondit Chico, je n'ai qu'un service à suivre en ce monde, c'est celui de mon prince. Hélas, il va diminuant de lustre, mais je serai fidèle à l'adverse fortune, moi qui ai dédaigné la prospère. Laissez-moi donc servir et aimer mon roi tant qu'il vivra, sire. Je serai bientôt seul avec lui, ne lui enviez donc point son dernier serviteur. »
Chico, répliqua Henri, je retiens votre promesse. Vous entendez, vous m'êtes cher et sacré, et après Henri de France, vous aurez Henri de Navarre pour ami.
Oui, sire, répondit simplement Chico, en baisant avec respect la main du roi.
Maintenant, vous voyez, mon ami, dit le roi, Cahors est à nous. Monsieur de Vezin y fera tuer tout son monde, mais moi, plutôt que de reculer, j'y ferai tuer tout le mien.
La menace était inutile et Henri n'avait pas besoin de s'obstiner plus longtemps. Ses troupes, conduites par Monsieur de Turenne, venaient de faire main basse sur la garnison. Monsieur de Vezin était pris. La ville était rendue. Henri prit Chico par la main et l'amena dans une maison toute brûlante et toute trouée de balles qui lui servait de quartier général, et là il dicta une lettre à Monsieur de Mornay pour que Chico la portât au roi de France. Cette lettre était rédigée en mauvais latin et finissait par ces mots « Quot mihi dixisti profuit multum, cognosco meos devotos noscetuos, chicotus caetera expediet », ce qui signifiait à peu près « Ce que vous m'avez dit m'a été fort utile, je connais mes fidèles, connaissez les vôtres, Chico vous dira le reste ».
« Et maintenant, ami Chico, continua Henri, embrassez-moi, et prenez garde de vous souiller, car Dieu me pardonne, je suis sanglant comme un boucher. Je vous offrirais bien une part de venaison si je savais que vous dussiez l'accepter, mais je vois dans vos yeux que vous refuseriez. Toutefois, voici ma bague, prenez-la, je le veux. Et puis, adieu, Chico, je ne vous retiens plus, piquez vers la France. Vous aurez du succès à la cour en racontant ce que vous avez vu. »
Chico accepta la bague et partit. Il fut 3 jours à se persuader qu'il n'avait pas fait un rêve et qu'il ne se réveillait pas à Paris devant les fenêtres de sa maison à laquelle Monsieur de Joyeuse donnait des sérénades.